Voilà, alors bien bonsoir. On va. Je vais essayer d'honorer le thème des... pour poursuivre notre école d'oraison, le thème des distractions, et que j'ai lié au don du Saint-Esprit. Alors, je suis pas un grand enseignant, mais j'ai trouvé quelques auteurs pour nous aider et pour entrer dans cette soirée. Je vous propose de lire, vous savez, les prêtres et les religieux disent le bréviaire ou l'office, la liturgie des heures. Et dans l'office de la liturgie des heures, il y a un office qui s'appelle l'office de lecture, qui après les psaumes est composé d'un extrait un peu long de la Bible, et puis ensuite souvent un passage de la tradition d'un père de l'Église. Et alors aujourd'hui, c'est un extrait de Diadoque de Photicé, qui s'intitule La perfection spirituelle, et je voudrais vous lire l'image qu'il utilise, qui est parlante, voilà, pour notre thème, et puis ça sera une manière aussi, ensuite, pour nous d'appeler le Saint-Esprit. Lorsque la mer est tranquille, le regard des pêcheurs la traverse jusqu'au fond, en sorte que presque rien ne leur échappe du va-et-vient des poissons. Mais lorsqu'elle est agitée par les vents, elle cache par sa sinistre agitation ce qu'elle laissait voir volontiers dans le sourire de sa tranquillité. On constate alors que les engins fabriqués pour les pêcheurs ne servent à rien. La purification de l'entendement appartient exclusivement au Saint-Esprit. En effet, si le fort n'entre pas pour dépouiller le voleur, le butin ne sera jamais libéré. Il faut donc, par tous les moyens, et surtout par la paix de l'âme, permettre au Saint-Esprit de se reposer, afin que nous ayons toujours la lampe de la connaissance brillante en nous. Si elle rayonne sans cesse dans les profondeurs de notre âme, non seulement toutes ces attaques cruelles et ténébreuses lancées par les démons se trouvent dénoncées, mais encore elles perdent beaucoup de leur vigueur quand elles sont prises sur le fait par cette lumière sainte et glorieuse. C'est ce qui fait dire à l'apôtre « N'éteignez pas l'esprit », c'est-à-dire « Ne contristez pas la bonté du Saint-Esprit par des actions et des pensées mauvaises pour n'être pas privé de cette clarté victorieuse. Car ce n'est pas l'être éternel et vivifiant qui s'éteint, mais sa tristesse, c'est-à-dire son éloignement, laisse l'entendement dans l'obscurité sans la lumière de la connaissance. » M'arrête là dans l'extrait, mais voilà, voyez cette image, et les distractions font partie des choses qui agitent et qui empêchent de voir avec clarté la lumière. Parfois, il y en a certaines en tout cas qui font cet objet, et il y en a d'autres qui font illusion, mais ça on le verra en détail. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la lumière ce soir. Alors, les distractions, comme je vous l'ai annoncé la fois dernière, il y en a de plusieurs types. Et alors, je reprends, c'est la classification du Père Caveau. Il y a des distractions de la vie ordinaire qui sont une indication pour nous que nous n'avons pas prié ce qui nous distrait. Alors je vais prendre un exemple. Nous sommes chargés, je ne sais pas, de faire les comptes de la maison, voilà, ou de vérifier, de pointer notre relevé de compte, hein, peu importe. Mais nous ne l'avons pas fait, donc nous y pensons. Et voilà que nous, évidemment, nous nous mettons à y penser au moment où on veut se mettre en prière. Ben, c'est peut-être le signe que nous n'avons pas remis à Dieu, offert à Dieu, ce petit travail, et que finalement, vous voyez, nous sommes accrochés. Et du coup, nous ne lui avons pas remis, Seigneur, j'ai ces comptes à faire, ça me tracasse, j'ai pas envie de les faire. Eh bien, voilà, je te les remets, et donne-moi dans cette prière la force pour ensuite m'y mettre. Et voilà. Vous voyez, les distractions qui sont le signe que nous avons, que nous sommes accrochés à quelque chose que nous n'avons pas prié, que nous n'avons pas remis à Dieu. Voilà. Alors, j'ai pris cet exemple, ça peut être plein d'autres, vous voyez, plus ou moins importants. Alors, il y a des distractions plus accrochées, des choses qui nous travaillent plus. J'ai telle difficulté, tel différend avec telle personne, c'est des distractions qui peuvent nous coller plus. C'est tout, la manière de régler cela, c'est de le lui remettre. Ça ne veut pas dire que ça réglera le problème. Ça veut dire qu'il faut faire cet exercice de détachement. Alors pour ceux qui sont au fond, il y a une rencontre à la crypte pour les jeunes. Voilà. Donc vous pouvez faire le tour de l'église par votre gauche. Donc ces distractions, en fait, sont le signe que voilà, nous sommes accrochés à d'autres choses qu'au Seigneur, et pour nous en décrocher, c'est pas les régler, mais c'est le lui remettre. Voilà, là, dans l'état dans lequel on en est. Et puis ensuite, il y a des distractions grossières. Voilà. Celles qui font que si on a une imagination d'architecte, on se retrouve dans cette église et on se dit « Ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. » Ou on prie dans sa chambre et on se dit « Ah, il faudrait que je la repeigne, ou je pourrais mettre telle couleur, vous voyez. » Ça, c'est les distractions qui nous arrivent, qui n'ont quelquefois aucun rapport avec la réalité, mais qui sont liées à nos goûts, qui sont liées au lieu où on est, qui arrivent, vous voyez, avec leurs gros sabots, et qui nous prennent toute notre pensée, mais qui sont finalement faciles à chasser, vous voyez, parce que on n'y est pas du tout attaché. C'est un peu comme quand on zappe à la télévision, c'est une grosse image qui vous arrive en pleine figure, ben alors là, ben, quand on s'en rend compte, « Seigneur, c'est pour toi que je suis venu. » Voilà. Alors, ça peut être pénible parce que ces grosses images, elles peuvent arriver souvent. Voilà. Et vous voyez, là où elles deviennent ennuyeuses, c'est quand on s'y complaît. Parce qu'évidemment, ces images, c'est celles qui correspondent à des goûts, qui correspondent à des choses qui, en soi, ne nous repoussent pas en général. Où on peut y trouver une apparence de bien. Et donc on peut se dire, oh ben oui, tiens, puis vous voyez, puis on se complaît dans la pensée. Là, on quitte la prière. Donc il faut les chasser, et c'est vrai qu'il peut y arriver qu'on ait des temps de prière où on va passer notre temps à les chasser. Mais le fait de les chasser, ça sera l'expression de notre foi et de notre désir de nous attacher au Seigneur, vous voyez. Il faut aussi accepter que les expressions de notre foi ne sont pas toujours, malheureusement, mais pas toujours liées à un recueillement ou à une paix intérieure. Voilà. Je vous reprends. Là, je vous dis les choses un petit peu pratiques. Voilà. Mais voilà, pour les deux catégories, tout simplement. Voilà. Celles qui sont le signe qu'on n'a pas offert au Seigneur, et celles qui sont les grossières, et qui ne sont pas graves. Même si, vous voyez, elles pourraient vous paraître pécamineuses, vous voyez. C'est pas parce que, alors moi je vous ai pris un exemple d'architecte, mais ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, des désirs impurs. Elles sont pas plus graves. De toute façon, il faut les chasser. Vous voyez, les tentations, quel que soit leur ordre, c'est pas des péchés. C'est simple. Voilà, le travail, c'est de les repousser. C'est exactement pareil pour les distractions dans la prière, vous voyez. Voilà. Donc que vos tentations, vous voyez, je dis ça parce que il faut pas que ces distractions ou ces flashs grossiers qui peuvent arriver vous inquiètent par leur nature, vous voyez. Voilà. Alors, j'ai tiré un extrait de l'histoire d'une âme où Sainte Thérèse aborde cette question des distractions avec une grande parabole. Qui s'intitule, enfin qu'on appelle habituellement la parabole du petit oiseau, voilà, et que je vais vous lire assez librement pour reprendre, peut-être pour pointer spirituellement cette disposition qui nous permet de faire face aux distractions. Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, Dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas ces immenses aspirations que je porte aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur. Car, malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Voilà. Alors, commentaire, elle sent des désirs, vous voyez, qui la dépassent. Et c'est vrai que désirer prier, désirer entrer en relation avec Dieu, avec l'infini, nous qui sommes créatures, ben, on pourrait se dire que ce n'est pas adapté. Il y a un décalage. Et on peut le ressentir fortement. Alors elle compare ses aspirations à ceux de l'aigle, et à l'aigle, et elle à ce petit oiseau. Voilà. Alors le petit oiseau, il voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses grands frères qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. C'est très important, car il n'est pas en notre pouvoir de nous placer en Dieu. Ce n'est pas par nos forces humaines que nous pouvons avoir place chez Dieu, être en relation avec lui. Que va-t-il devenir, ce petit oiseau? Que devenons-nous alors que nous portons ce désir et que nous savons en vérité que ce n'est pas en notre pouvoir? Mourir de chagrin se voyant aussi impuissant? Oh non! Le petit oiseau ne va pas même s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester fixé à son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent ni la pluie, ni de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour. Le petit oiseau ne change pas de place, il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un seul instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là, quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Voilà, alors c'est un peu une autobiographie, histoire d'une âme. On peut en tirer vraiment une leçon pour nous. Voilà. Ce petit oiseau, ce qui le sauve, c'est son abandon. Mais pour s'abandonner, et vous voyez la force du texte, il faut de la volonté. C'est un acte déterminé que nous posons. Voyez. L'abandon, ce n'est pas un mot qu'il faut faire rimer avec passivité, ou ça dépend comment on entend ce mot, vous voyez. C'est une passivité active. Il s'agit de vouloir, et de vouloir fortement et avec foi, rester tourné vers le Seigneur. Vous voyez. Alors là, elle aborde effectivement tout ce qui nous arrive. On ne le voit pas, il y a ces nuages, il y a parfois même la tempête. Et pourquoi elle dit c'est la joie parfaite? Parce que c'est là le lieu pour nous de l'épreuve de la foi. Voilà. Lorsque nous voyons, lorsque nous sentons, nous pouvons penser que le motif qui nous fait nous tourner vers le soleil, ben c'est le soleil lui-même, puisqu'on croit le voir. Si nous sommes dans l'obscurité, dans l'adversité complète, nous découvrons, nous prenons conscience que, vous voyez, ce désir qui nous porte, c'est vraiment l'amour et l'amour seul. C'est à cette foi parfaite que nous sommes appelés ici-bas, tant que nous ne sommes pas dans la vision de Dieu. Alors, ben, ça rejoint l'expression de saint François d'Assise, qui, pareil, dans l'adversité, dit, ne peut s'appuyer que sur Dieu seul. Ou alors, quand saint Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Jésus, jusqu'à présent, je comprends ton amour pour le petit oiseau, puisqu'il ne s'éloigne pas de toi. Mais je le sais, et tu le sais aussi, souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, c'est-à-dire sous les rayons du soleil, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit ver, puis, rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Enfin, ne pouvant planer comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé soleil. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées, il gémit comme l'hirondelle, et dans son doux chant, il confie, il raconte en détail ses infidélités, pensant, dans son téméraire abandon, acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Vous savez, c'est pas de l'eau de rose. C'est un enseignement très important pour nous sur la foi. Vous voyez, la conscience, l'extrême conscience de Sainte Thérèse, de toutes nos distractions, de tous nos attachements, voilà, de toutes nos petites bagatelles. Comment y répondre? Voilà. Avec la détermination téméraire de l'abandon, qui fait que tout simplement, nous nous retournons, dès lors que nous en prenons conscience, vers celui vers qui nous voulons nous tourner, et nous voulons demeurer pendant ce temps de l'oraison, et nous lui racontons. Voilà. Je suis en train de penser, Seigneur, à mon fils, je suis en train de penser à mon travail, et j'ai pas pu m'empêcher, et il fallait que je règle cette question dans ma tête, voilà. Seigneur, je suis là maintenant, voilà. Cette vérité, cette humilité, finalement, puisque c'est ça, cette attitude de vérité devant le Seigneur, nous donne quelque part à Dieu, au mystère de Dieu, d'apparaître en vérité devant nous. Voyez. Dieu est plus réellement, vraiment présent et accessible à nous que nous sommes humbles devant lui. Et j'allais dire, c'est notre humilité qui provoque sa présence divine, totale, ou plutôt son acte pour mieux dire, puisqu'il ne change pas, mais son accessibilité pour nous. Voilà. Notre humilité révèle toute la grandeur de Dieu, tout le mystère de Dieu dans ce qu'il est. Voilà, bon, mais pour cela, il faut avoir conscience, effectivement, d'être pauvre et pécheur. Hein. Attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Si l'astre adoré demeure sourd au gazouillement plaintif de sa petite créature, s'il reste voilé, c'est habituel, eh bien, la petite créature reste mouillée. Elle accepte d'être transi de froid et se réjouit encore de cette souffrance qu'elle a cependant méritée. C'est-à-dire que ce qu'est la lame de fond, ça veut pas dire qu'il faut désirer, voyez, cette souffrance, même si on la goûte. Mais la lame de fond, c'est cette foi indéfectible dans la présence du Seigneur qu'on ne voit pas. Il est là. Ça, c'est la lame de fond. Si il me console et qui me remet dans une quiétude, un recueillement, alors que j'étais dans les distractions, je me suis tourné vers lui. Rendons grâce. S'il ne m'y met pas, rendons grâce aussi, il est là. Vous voyez ? Alors, c'est facile à dire, mais c'est quand même ça qu'elle dit. Elle accepte d'être en vie, elle se réjouit encore de cette souffrance qu'elle a cependant méritée, effectivement, c'est vrai. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit, que deviendrait-il s'il était grand ? Et là, écoutez, jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau. Lorsqu'il veut fixer le divin soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon, malgré ses petits yeux, malgré lui, ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. À son réveil, il ne se désole pas, son petit cœur reste en paix, il recommence son office d'amour, il invoque les anges et les saints qui s'élèvent comme des aigles vers le foyer dévorant objet de son envie. Et les aigles, prenant en pitié leur petit frère, le protègent, le défendent et mettent en fuite les vautours qui voudraient le dévorer. Vous voyez, c'est extrêmement concret sur notre expérience. Voilà, il n'y a pas que les distractions, il y a aussi le sommeil qui peut nous prendre pendant la prière, ou au moins l'assoupissement. Voilà. Et vous avez remarqué donc cette réflexion, si on était grand, on n'arriverait plus, on ne pourrait pas avoir cette simplicité, vous voyez. Elle se réjouit vraiment de notre condition. Et alors, faut pas le prendre comme le fait de se rabaisser, mais c'est parce que c'est par rapport à Dieu qu'elle se situe. Par rapport à Dieu, ben voilà, notre condition, c'est vraiment celle d'un pauvre petit être, mais bien aimé, ça c'est important. Alors après, il y a toute cette histoire de la communion des saints et de l'Église qu'elle évoque avec tous ceux qui arrivent à voler, qui sont déjà dans la communion de Dieu, et puis ces vautours qui sont l'image du tentateur, du diable et des démons. Le petit oiseau ne les craint pas, il n'est pas destiné à devenir leur proie, mais celle de l'aigle qui contemple au centre du soleil d'amour. Voilà. Et là, la parabole prend une autre tournure parce que cet aigle, c'est une figure du Christ. Et c'est cet aigle qui nous conduit vers le soleil, qui nous conduit au Père. C'est le chemin, c'est Jésus. Et donc, elle ne s'inquiète pas des autres rapaces. Elle sait très bien que par elle-même, elle n'aura pas accès au soleil, mais que c'est l'aigle qui peut y conduire. Verbe divin, c'est toi, l'aigle adoré que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, a voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'éternel foyer de la Trinité bienheureuse. C'est toi qui, remontant vers l'inaccessible lumière, qui sera désormais ton séjour. C'est toi qui restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie. Je vais développe d'autres choses. Mais pour nous, elle ne jalouse pas l'aigle et les saints qui sont avec lui, qui volent plus près du soleil dans sa parabole. Mais au contraire, elle sait que c'est l'aigle qui va la conduire à Dieu. Et en conclusion, ma folie, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime ou en offrande, elle dit. C'est un autre langage, mais qu'accepte sa prière. Voilà. Alors, moi, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire, et puis ensuite, par les dons du Saint-Esprit, vous expliquer un petit peu comment on peut avoir cette folie d'espérer. Mais voilà, que cette parabole, ou que ces paraboles, je vais reprendre la première avec l'explication des dons du Saint-Esprit, mais soit un peu que nous nous en souvenions. N'oubliez pas, j'insiste, c'est pas parce que j'ai de la dévotion pour elle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est docteur de l'Église. Voilà. Et sa petite histoire, non seulement elle va pas contre le dogme, mais elle a été choisie par l'Église pour venir éclairer et approfondir le cœur de notre foi, le dogme. Voilà. Elle fait partie de la tradition. Donc vraiment, on peut... Voilà, c'est... Voilà, moi je suis pas un grand théologien. Elle l'est, même si ça peut paraître un peu simple comme histoire. Voilà. Alors, je vois bien qu'en même temps, en relisant cette parabole et en faisant mémoire de ma propre expérience et vous de la vôtre, il peut y avoir un certain quand même trouble de cette expérience d'être ce petit oiseau qui n'arrive pas à voler, d'être mouillé. Il y a un certain trouble qui est lié à cette présence finalement de Dieu en qui on se tient présent et surtout, peut-être même, à son action en nous. Il y avait cette image chez Dio, je sais plus comment il s'appelle, Diodec, je ne sais pas d'où il y avait ces écrivains grecs, Diadoc. Il y avait cette image de la mer, quand elle est calme, on voit les poissons et donc on repère, on sait ce qu'il y a à faire. Quand on est pêcheur, quand elle est agitée, on ne voit plus rien. Quand Dieu s'approche de nous et qu'il fait la lumière, on voit très bien ce qui est de l'ordre de la distraction, ce qui est de l'ordre des choses à lui demander, ce qui est de l'ordre de la grâce. On a la lumière, mais quand on ne l'a pas, ça devient plus difficile. Alors, il ne suffit pas effectivement de croire qu'il est là, il faut aussi voir quels moyens on a et comment ça marche, voilà, si je puis dire. C'est pour ça que j'ai voulu parler des dons du Saint-Esprit, parce que être face au soleil, ça aveugle. Voilà. Alors comment ça marche? Comment Dieu, alors que nous tournons vers lui, investit notre âme? Comment ce tout petit oiseau peut-il avoir ce désir si farouche, si fort, de regarder le soleil qui l'éblouit, qui n'est pas à sa mesure? Comment c'est possible? Est-ce que c'est par des grâces extraordinaires? On pourrait le dire pour Sainte Thérèse. Est-ce que, c'est comme Sainte Bernadette, la grâce d'avoir vu la Sainte Vierge qui nous donne ce désir de prier? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que tout le monde a des grâces extraordinaires ou doit avoir une grâce extraordinaire pour avoir ce désir et avoir le désir de prier. Je crois qu'il n'y a pas un caractère extraordinaire à cette grâce qui nous est faite d'avoir ce désir. Mais en revanche, je crois qu'il y a des événements, des moments dont on peut faire mémoire où Dieu nous a donné d'expérimenter particulièrement, je dirais, pour pas dire extraordinaire, voilà, quand on a trouvé notre vocation, quand on a, été aiguillé dans telle ou telle circonstance où on était aveuglé, voilà, où on a expérimenté une action, une grâce du nom à Dieu, on a connu sa volonté, voilà. Dieu, donc, se manifeste, voilà, de lui-même, voilà, ça c'est l'ordre de la grâce, et puis, il y a des moments, finalement, si on va le dire, il y a quand même des moments extraordinaires, même si ce n'est pas des phénomènes extraordinaires, il peut y avoir des moments extraordinaires. Et puis, il y a les moyens ordinaires d'action de Dieu chez nous. Et c'est cette action tout à fait ordinaire qui où Dieu passe par ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Alors, ces dons, d'où ça sort? Pourquoi on parle de ces dons du Saint-Esprit? Ça vient d'abord de la Bible, du prophète Isaïe. Vous connaissez, où on parle Isaïe qui annonce le Messie, qui recevra l'esprit de Dieu, esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de discernement. Voilà. On en comptabilise 7 dans la tradition, mais dès lors qu'on veut les énumérer, on n'arrive jamais à 7 ou à 8, enfin bon, parce que selon les traductions, on n'a pas les bons mots. Peu importe le nombre, d'ailleurs, je vous dirais que enfin, pour moi, c'est pas très important, parce qu'en fait, ce sont des facettes d'un unique, à mon avis, don. Ce qu'on appelle don n'est pas... Ce sont des puissances, c'est une puissance de notre organisme spirituel qui, c'est une puissance passive, je ne sais pas comment dire, c'est comme les voiles d'un bateau, Les voiles d'un bateau, par elles-mêmes, elles ne font rien. Mais par elles, le vent peut pousser le bateau. Voilà. Les dons du Saint-Esprit, c'est une puissance passive que Dieu nous donne, qui nous permet de vivre sous son influence, de nous laisser mouvoir par lui. Et dans la foi, eh bien, faut croire que nous avons ces puissances de réceptivité du divin, si je puis dire. Vous voyez, un peu comme vous avez une antenne pour capter les ondes et avoir les images ou la radio, nous avons des antennes, notre organisme spirituel qui est lié à notre grâce baptismale, nous avons des antennes pour capter Dieu, si on peut dire. Vous voyez, nous avons un équipement. Et alors, voilà ce que, voilà, dans la tradition de l'Église, on appelle les dons du Saint-Esprit, c'est cette capacité que nous pouvons recevoir quelque chose de Dieu. Voilà, c'est saint Thomas qui compare ça aux voiles du navire, donc c'est pas moi qui invente cette image. Ou alors c'est l'ange du panier, vous voyez. On ne pourrait pas le porter sans ça. Voilà. Alors, pourquoi le bon Dieu nous a-t-il donné ces passivités, ces capteurs, précisément pour pouvoir le recevoir pour pouvoir. On pourrait dire, ça c'est de moi, mais que c'est un adaptateur de l'infini au fini, les noms du Saint-Esprit. C'est la puissance que j'ai de recevoir et d'être en relation avec le Seigneur, alors que moi-même je suis une pauvre petite créature. Voilà. C'est le don du Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit, que le petit oiseau peut rester déterminé dans la foi, orienté vers le soleil. Voilà. Mais en lui-même, ce don est vide. Vous voyez ? En lui-même, ce don est vide. Et alors, il fonctionne, ces dons du Saint-Esprit, en même temps que les vertus, qui font partie de notre organisme, que la foi, l'espérance et la charité, qui sont là, des actes que nous posons. Ça fonctionne ensemble. Et en même temps, le double mouvement. En même temps que je suis rendu capable de poser un acte de foi, eh bien en posant cet acte de foi, j'entre en relation avec Dieu, on l'a bien vu, et par ces dons du Saint-Esprit, je suis apte à recevoir ce que lui me donne dans ce contact que j'ai établi par ma foi. Vous voyez un peu le mécanisme. Il devient actif, ce don de Dieu, par l'influence de Dieu. Voilà. Alors, sur les distinctions, combien y a-t-il de dons ? Moi, je vous cite saint Jean de la Croix, qui, dans la troisième strophe de la Vive Flamme d'Amour, compare les attributs de Dieu à des lampes ardentes. Voilà. Et ces lampes ardentes qui sont en Dieu, c'est-à-dire, dit-il, chacun des attributs divins que nous distinguons nous-mêmes intellectuellement, alors... la force, en même temps la douceur, sont en Dieu et forment son unité. Et c'est ces lampes ardentes qui sont les attributs de Dieu qui, en agissant dans l'âme, produisent, dit-il, des obombrations lumineuses. Et ce verbe, il ne l'invente pas, il vient de l'Annonciation. L'Esprit Saint te couvrira sous son ombre. Voilà. Alors c'est vraiment une manière de parler vraiment de la relation mystique. Mais quand Dieu va agir, vous voyez, c'est infiniment délicat. Mais l'Esprit Saint te couvrira sous son ombre. Toutes ces influences de Dieu, toutes ces lumières, toutes ces grâces, si on peut dire, sont de même qualité de là où elles émanent. Toutes ces lumières viennent de la lumière, elles sont de même nature. Et donc, cette lumière qui nous est donnée, telle ou telle lumière, cette force, cette paix, cette sagesse qui nous est donnée, que nous recevons, elle est de même nature que Dieu. Et donc, par elle, c'est Dieu auquel j'ai accès. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille faire une distinction. Alors il nous est donné, et ça, ça dépend de Dieu lui-même, d'avoir telle ou telle lumière, telle ou telle lumière. Alors ça peut être la paix, mais ça peut être la force de persévérer dans la foi et de pas du tout être en paix, mais non, justement dans cette agitation de demeurer ferme, vous voyez, par exemple, de garder le cap. Voilà. Ça, je veux pas. Alors, faut prendre un exemple très concret, mais dans la vie des saints, on a fêté Saint Jean Bosco hier. Saint Jean Bosco, c'est pas Sainte Thérèse de Lisieux. La lumière, il l'a reçue dans l'action. Il s'est débattu et il raconte tout ça, voilà, pour trouver de l'argent, pour organiser ses maisons, alors que Sainte Thérèse d'Avila, dans ses fondations, elle aussi s'est débattue, mais elle écrit, c'est pas un problème, ça vient quand on a besoin. Vous voyez, ils ont un autre rapport à la lumière. Ils ont tous les deux la lumière. Ça s'incorne différemment. On va, c'est exactement pareil dans notre oraison. Je vous le dis parce que ça peut vous arriver de parler avec votre conjointe, votre prière, si vous êtes marié, ou avec d'autres. Enfin, quand on pourra en parler peut-être un peu tout à l'heure. Voilà, c'est dons du Saint-Esprit par lesquels nous recevons l'influence de Dieu. C'est pas qu'on a tel ou tel don, c'est que la différence vient plutôt de la manière dont nous ressentons cette influence de Dieu, vous voyez. C'est plutôt ça, en fait. La distinction des dons vient plutôt de la manière dont nous percevons son action, s'il n'y a qu'un seul don. Et on perçoit son action d'une manière, alors on va dire, voilà, Dieu m'a donné telle force, et d'autres dira, il m'a donné la douceur. Voilà. Mais c'est l'unique don qui nous permet de recevoir la charité de Dieu. Voilà. Alors, elle se situe justement, cette influence de Dieu, ce mécanisme, au niveau justement intellectuel, sensible, psychologique. Là, justement, c'est quelque chose qu'on expérimente, cette capacité que nous avons à recevoir de Dieu. Et quelquefois, on expérimente la sécheresse. Voilà. Mais dans la foi, et parce que nous savons justement que nous sommes équipés de ces dons et de cette capacité de recevoir de Dieu, eh bien nous pouvons poser, greffer sur notre intelligence, cet acte de foi. Il est là, malgré la tempête ou l'adversité. Et Dieu va du coup, puisque mon intelligence, mes sens sont faits, mon intelligence est faite pour la clarté, mes sens sont faits pour pas être on n'est pas fait pour avoir froid, pour avoir mal, on est fait pour être bien. Et donc forcément, notre corps criera toujours quand il ne sera pas à son aise, notre intelligence criera toujours quand elle ne comprendra pas. Eh bien, comment Dieu va-t-il perfectionner mon oraison? Eh bien, il va la perfectionner par ses dons en maintenant mon accrochage à lui. Et ce qui peut devenir, ce qui est actuellement peut-être, on va dire, poussif, comme un peu un démarrage d'une voiture qu'on n'arrive pas à démarrer, notre oraison peut être très poussive, peut être vraiment ces actes, comme je vous disais tout à l'heure, de chasser simplement les distractions et d'avoir aucune paix et du coup aucun bienfait, et finalement de se dire, mais alors à quoi bon? Voilà. Eh bien, il faut croire que par la foi j'ai l'assurance de ce contact, et que un jour, si Dieu veut, peut-être, et peut-être il le fera un jour et pas le lendemain, eh bien je serai comme posé dans cette, enfin, mon oraison qui sera très active deviendra peut-être plus passive. Et ça veut dire que je serai maintenu dans cet état de réceptivité paisiblement. Voilà. Et je goûterai une union. Il se peut, là je m'avance un peu, peut-être je me trompe, mais en tout cas, il se peut qu'en goûtant cette communion, cette paix, que nous ayons des réactions, j'allais dire physiques même, qui nous surprennent. L'endormissement, alors qu'on a beaucoup dormi et qu'on n'est pas du tout fatigué. Et qu'on a l'impression qu'il a duré des heures, par exemple, et puis quand on regarde notre montre, en fait, on s'aperçoit qu'il n'a même pas duré une minute. Ou l'inverse. On a l'impression qu'on a prié une minute et que c'était un combat, et quand on sort de quand on regarde notre monde, ah ben ça fait déjà une heure. ça arrive, ça, quelquefois. C'est des manières de repérer qu'il s'est passé quelque chose, vous voyez. Mais ça, voilà, on n'en a pas la, on n'a pas la maîtrise de cette oraison passive. Voilà, de cette oraison passive, de cette union, en fait, qui est réalisée et vers laquelle nous tendons. Et puis, c'est pas le problème. Vous voyez, alors dit Sainte Jeanne d'Arc, hein, voilà, on lui demande si elle est en état de grâce, que si j'y suis, Dieu m'y garde, et que si j'y suis pas, qu'il m'y mette. Voilà, c'est ça. L'oraison, c'est ce travail pour demeurer en communion avec Dieu. Bah, si mon oraison, ce temps d'oraison, il passe tout le temps dans ce travail, et ben voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas d'ailleurs. En fait, on ne sait pas. Quelquefois, on a des signes qui nous permettent de le repérer. Voilà. Vous savez, on raconte, j'ai pas lu encore, peut-être qu'un jour je le lirai, mais le journal de Mère Teresa, qui parle de sa nuit dans la foi, et qui a demandé plusieurs fois pendant l'adoration à sa voisine, c'est quoi le rond blanc là-bas ? Voilà. Elle avait besoin d'un soutien dans la foi. Je pense qu'elle savait très bien qu'elle était à l'adoration et que c'était le pain consacré à l'Eucharistie. Mais vous voyez, quelquefois, on a besoin, parce qu'on est perdu, quelque part, notre prière, on est désarçonné dans cette relation à Dieu, et on a besoin fraternellement de le réentendre, et quelquefois, le Seigneur nous le donne par un frère, là, dans l'exemple de Mère Teresa, quelquefois, ça nous vient par une parole de Dieu qu'on reprend en reprenant notre Bible, et puis vous voyez, quelquefois en lisant la parole de Dieu, on a une lumière sur une phrase. Voilà, c'est que les dons ont fonctionné, les dons du Saint-Esprit, et on nous aime. Voilà. Quelquefois, voilà, la grâce est intérieure, puis quelquefois il n'y a pas la grâce, et comme dit Sainte-Thérèse, de ne pas avoir la grâce, c'est la grâce, c'est qu'on peut faire cet acte de foi, voilà, dans cette situation. Vous voyez ? Voilà, alors après, pour terminer, j'ai quand même beaucoup parlé. La lumière que Dieu nous donne peut nous éclairer, mais elle peut aussi parfois avoir l'effet inverse. Parce qu'elle est trop puissante. C'est la lumière de Dieu. Et elle nous aveugle complètement. Et donc, vous voyez, ça c'est pour justifier le fait que il ne faut pas juger vraiment sur nos impressions. Cette contemplation que nous avons de Dieu, puisque il s'agit vraiment de ça, Saint Thomas dit infuse, et qui nous est donnée en fait, elle nous aveugle, elle paralyse l'intelligence, elle la met dans l'obscur, parce qu'en fait, cette contemplation, elle nous fait prendre contact avec l'or de la substance, pour reprendre cet exemple du cantique, voilà, avec le mystère de Dieu. Et du coup, on ne distingue plus que l'obscurité, alors même, mais c'est précisément parce qu'on est accroché au mystère. Voilà. Plus près de Dieu nous sommes, et plus c'est grand, plus c'est lumineux. Enfin voilà, et finalement moins on voit. Alors l'image du soleil est très parlante, vous n'avez qu'à regarder le soleil pendant quelques minutes. Puis essayez de regarder les lignes de livres que vous étiez en train de lire dans votre transat. Il vous faut un temps d'adaptation après. C'est pas immédiat, vous voyez. C'est exactement pareil. C'est une image. Mais voilà. Alors Sainte Thérèse d'Avila, moins je comprends, plus je crois et plus j'aime. Alors, faut pas dire ça au début de notre école de raison, parce que notre foi, elle est bien greffée sur notre intelligence. Mais voyez bien que par la foi, on va s'approcher plus près et moins on va comprendre. Voilà. Et le don du Saint-Esprit, à ce moment-là, je me suis rappelé de noter ça, supplée à la difficulté qu'a mon intelligence de rester dans l'obscurité. Supplée à la difficulté que mon corps a à rester, par exemple, dans telle position. On n'est pas fait, si on a des jambes, c'est pour marcher, c'est pas pour rester une heure sur un tabouret. Donc c'est normal que, surtout si c'est pour rien faire d'autre, c'est pour prier, donc c'est normal que notre corps il a envie de bouger. Eh bien, c'est les dons, par les dons du Saint-Esprit, que je suis capable, que Dieu me donne, d'être calme, assis. C'est par les dons du Saint-Esprit que mon intelligence va finir par arrêter de questionner. Voilà. Alors, j'ai donné des pistes. J'ai bien conscience de ne pas avoir fait un enseignement très construit parce que j'ai pas pris assez de temps pour le préparer. Mais peut-être je vais vous dire ça parce que on nous a dit ça pendant la retraite, que le cardinal Daniels, qui on peut dire est un homme qui a été éprouvé dans sa foi et qui continue de l'être avec les affaires de Belgique, nous a dit, et puis c'est l'évangile d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de nous étonner de la difficulté, finalement, à croire. C'est pas du tout évident que Jésus soit le Fils de Dieu. Et c'est encore moins évident quand on le voit sur la croix. Et donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus vient à Nazareth. D'où lui vient cette sagesse? C'est pas le fils de Joseph? Et Jésus leur reproche leur manque de foi. Bah, d'accord, mais enfin, Jésus, il faudrait quand même pas qu'il oublie que c'est quand même pas évident que celui avec qui on a vécu, celui avec qui on a grandi, d'un seul coup, il fait des miracles, il vient faire la leçon, si je peux dire, enfin le commentaire, il vient dire à la synagogue, attendez, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit, l'Esprit est sur moi, mais pour qui il se prend? Si quelqu'un faisait ça à Saint-Lambert, je peux vous dire que je serais vite remercié. Donc, voilà, donc je vous le redis, parce que enfin, je l'ai entendu la semaine dernière, et il disait, vous voyez, enfin, voilà, ne nous étonnons pas de cette difficulté, c'est notre foi est pleine d'antinomie. Et alors lui, il disait, notre religion n'est pas vendable. Voilà, un sauveur crucifié, c'est vrai que c'est pas très marketing aujourd'hui. Et vous voyez, mais donc du coup, quelque part, nous aussi, ça nous scandalise inconsciemment. Et on dit, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Je sais pas, c'est que ça va pas. Et donc, on éprouve ça douloureusement, vous voyez. Ça fait partie de notre cheminement dans la foi. Tous l'ont vécu, et y compris Jésus. A vécu cette obscurité. On le voit très bien dans sa prière à Gethsémani. Et c'est pas normal. Son corps n'a pas envie de souffrir et de mourir. Et donc il dit à Dieu, pourquoi? Si cette coupe peut s'échapper, si je peux y échapper, qu'elle passe. Mais non ta volonté. Voilà. Et on est toujours ramené à cet acte de foi. Voilà. Donc, question. Voilà, peut-être c'est plus simple. Si vous avez des questions pratiques ou plus profondes. On verra après, alors. Nous plongeons dans notre temps d'oraison. Alors, je vous encourage, puisque nous ne voyons que chaque mois maintenant, voilà, à continuer et à prendre votre agenda. Et si vous n'avez pas été très régulier depuis la dernière fois, vraiment, voilà, refaire le choix, la mesure de l'appel que vous ressentez. Mais voilà, n'ayez pas peur de prendre les moyens de ce temps avec le Seigneur. Et ce soir, eh ben, je vais le faire. Je ne vais pas la commenter, l'oraison. Voilà. On va vraiment prendre ensemble 25 minutes. En silence. Voilà. Pour entrer dans l'oraison, je vais vous relire l'évangile du jour. Voilà. Et voilà, comme nourriture. Et puis il y a voilà toutes les paraboles toutes les images que je vous ai données, voilà, qui peuvent peut-être vous aider. Et puis voilà, servez-vous-en, je vais dire, pour ce contact avec Dieu. Mais n'oubliez pas que ce temps d'oraison, c'est pas le temps de la mémorisation de ce qu'on a eu comme lumière, vous voyez. Mais elles sont ces lumières, si on en a eu, tant mieux, qu'elles nous aident, voilà, à faire le saut de la foi. Voilà. Et puis, à 10h moins 5, s'il y a des questions qui sont venues, alors s'il y en a qui sont venues, à la limite, notez-les pour pas les oublier à la fin de votre raison, pour chasser la distraction, et puis on les reprendra à la fin. et puis on prendra un petit temps pour ceux qui veulent de partage, et puis ça va ?